This is Radio Free Europe.
Benvenutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Et le 18-20 aujourd'hui sera dans un village bédouin de Cisjordanie, ainsi qu'en Norvège. Ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'International, signé Michael Thébault. Nous arpenterons aussi des villes intelligentes ultra connectées. Et Hélène Chevalier sera notre guide. À 18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier sur la bataille pour le leadership du Parti travailliste en Grande-Bretagne. Bataille de personnes, mais surtout de lignes idéologiques. Tout de suite, l'Amérique latine.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
De nombreux facteurs, on va les explorer, les analyser, expliquent le décrochage économique d'une partie de l'Amérique latine, à commencer par le Brésil, dont tous les indicateurs s'affolent. Récession, inflation, effondrement de l'investissement et de la consommation des ménages, avec par-dessus la catastrophe économique, une crise politique extraordinairement profonde. Au Venezuela, 7% de récession et environ 100% d'inflation, une recherche frénétique de devises également, avec des contre-coups géopolitiques comme la fermeture d'une partie de la frontière avec la Colombie. Je m'arrête là pour l'instant. On en parle avec Olivier Dabène, qui est professeur à Sciences Po Paris, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, en direct de France Bleu Poitou. Avec nous également Célia Himmelfarb, économiste, directrice du Master Amérique latine à Sciences Po Grenoble, cette fois-ci en direct de France Bleu Isère. Bonsoir à tous les deux et merci d'être au micro de France Inter. Avant d'entrer dans chaque situation particulière, dans chaque pays, les éléments, je dirais, macroéconomiques de la crise, d'abord et avant tout, c'est la chute du cours des matières premières pour des pays qui en sont extrêmement dépendants, qui a commencé à semer la zizanie, non, Olivier Dabène?
Oui, bonsoir. Oui, exactement. Et c'est la chute des matières premières, la chute des cours des matières premières qui est à l'origine de l'interruption de la croissance. Il faut prendre la mesure, je crois, de la période extraordinaire qu'a vécue l'Amérique latine pendant 7 ou 8 ans, avec une Chine qui a acheté à peu près tous les produits qu'exporte l'Amérique latine à des cours très avantageux. Cette période a pris fin. Les cours se sont écroulés les uns après les autres, le plus spectaculaire étant celui du pétrole, qui depuis un an est passé d'à peu près 110-120 dollars à 40 le baril. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour les pays producteurs comme le Venezuela, comme l'Équateur. Et puis tout le reste, tous les produits miniers, mais aussi les produits agricoles, il y a vraiment une situation qui est extrêmement compliquée.
Célia Himmelfarb, économiste, je le rappelle, catastrophe absolue pour le Venezuela que l'effondrement des prix du pétrole.
Oui, bien sûr. Vous parliez d'une décroissance de l'économie vénézuélienne, moins de 7% du PIB. Le Venezuela vivait de... C'est une économie des rentes. Hein. On disait toujours, Chavez est assis sur un puits de pétrole. Si les prix de ces puits de pétrole tombent, comme Olivier Dabène le disait, que je salue, quelle est la nouvelle source? Jamais le Venezuela s'industrialisait, s'est diversifié. Donc, on dépend du pétrole et le prix du pétrole est à moitié à l'heure actuelle. Donc, décroissance et puis crise politique énorme. Hein. Il ne faut jamais oublier que le problème économique et le problème politique sont étroitement lié.
Et on le voit que ce soit au Venezuela ou encore au Brésil. Gardez la parole, Célia Himmelfarb,
oui,
pour justement, c'est Olivier Dabène qui citait ce pays, nous parler de l'impact de la récession chinoise. Parce que c'est aussi là l'autre élément très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine.
Bien sûr. La Chine est le premier client, le premier fournisseur, par exemple des pays comme le Brésil, et acheter une grande partie de la production brésilienne, des produits agricoles, miniers, etc. Si la Chine est rentrée en crise et qu'il y a une décroissance, hein, presque la moitié du PIB comme auparavant, hein, maintenant à peine 7%, donc probablement la Chine va se recentrer sur son propre marché intérieur. Ce qui fait que le Brésil va pouvoir exporter moins, le prix des matières premières a chuté considérablement, et puis le Brésil va importer moins aussi à la Chine des manufactures. Donc, double phénomène, et puis reprimarisation du Brésil et la Chine en crise affecte énormément l'Amérique latine. Effectivement.
C'est une véritable tenaille, hein, Olivier Dabène, dans laquelle se trouve prise l'Amérique latine.
Oui, absolument. Je crois que concernant la Chine, il y a eu en plus deux phénomènes distincts. Il y a d'abord eu l'interruption de la croissance en Chine qui a pénalisé les exportations latino-américaines. Mais il y a aussi depuis quelques semaines, depuis quelques mois, une crise monétaire, des dévaluations de la monnaie chinoise qui a eu un impact direct en Amérique latine. Les monnaies en Amérique latine, selon les indicateurs de Bloomberg, par exemple, sont au niveau le plus bas depuis 22 ans. Donc il y a aussi, si vous voulez, un phénomène qui est en train d'affecter les économies de la région et que c'est un phénomène strictement monétaire, ce qui est assez nouveau dans la région.
Si on regarde le Brésil maintenant d'un petit peu plus près, le sentiment qu'on a, c'est que Célia Himmelfarb, c'est absolument tout est en train de partir en vrille. Hein. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure très rapidement, c'est l'ensemble du tableau économique qui est dans le rouge, là, pour ne pas dire dans le noir.
Je suis d'accord avec vous, Nicolas. La croissance est négative. Le Brésil est rentré en récession. Récession, ça veut dire que pendant trois trimestres, la croissance était négative. L'inflation augmente beaucoup. Elle est autour de 10%. Négative, le solde budgétaire, ça veut dire que il paye pas, si vous voulez, avec les recettes de l'exportation, le compte interne, les dépenses internes. Et puis, la dette publique augmentait beaucoup par rapport à leur production, des 66%, qui est beaucoup. Mais le Brésil était parvenu à être la 7e puissance mondiale, un émergent considérable, et on disait
l'émergent, voilà, même avec une majuscule, cité en exemple dans le monde entier.
L'émergent, et absolument. Et à l'heure actuelle, on peut parler d'une économie en crise fondamentalement. Les émergents sont aussi en crise. Il n'y a pas que le Brésil, la Russie, et la Chine, et l'Afrique du Sud, bien sûr. Mais pour se centrer sur le Brésil, il y a une désindustrialisation, une réprimarisation. La réprimarisation, le commerce avec la Chine est grandement responsable, bien sûr. Manque d'une main-d'œuvre qualifiée, un système éducatif à développer et carence dans les infrastructures, transport, énergie et problèmes de politique publique. Vous vous souvenez les manifestations de juin 2013, les manifestations avant la Coupe du Monde, et il y a des manifestations effectivement à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il y a une crise économique, mais une crise aussi des crédibilités politiques énormes.
On va y venir à la crise politique. Encore un mot sur l'économie. Ce qui se profile maintenant pour le Brésil et les Brésiliens, c'est quoi? C'est l'austérité, les coupes budgétaires, on serre absolument toutes les vis, on augmente les impôts?
Oui, le programme que Dilma Rousseff a présenté récemment, c'est un programme d'austérité. Ce n'est pas du tout un programme de relance de l'économie. Et on constate que un phénomène qui avait réduit énormément pendant les deux gouvernements de Lula, la pauvreté avait réduit de 30 millions de Brésiliens. La pauvreté repart à la hausse au Brésil, par exemple. L'investissement international, qui c'était un pays qui attirait énormément les capitaux internationaux, est à la baisse parce que aussi les capitaux reviennent vers les États-Unis, reviennent vers l'Europe. Il faut savoir ça aussi. Il y a une certaine donc, recrudescence de la pauvreté et un état des infrastructures lamentable. Donc, à l'heure actuelle, quelle est la sortie que Dilma Rousseff propose? Elle est de l'austérité, pas relancer l'économie, pas une mesure que Lula avait fait lors de la crise des subprimes dans l'année 2007. C'est un repli d'austérité que je pense qu'il va avoir des limites énormes et une grande croissance de la pauvreté à nouveau, bien sûr.
Comment se mélange Olivier Dabel la crise économique très profonde, on vient de l'entendre dans la description qu'en fait Célia Himmelfarb, la crise économique donc, et la crise politique qui lamine littéralement Dilma Rousseff.
Oui, il y a diverses composantes qui toutes se renforcent mutuellement et c'est ce qui fait la complexité de la situation. Il est évident que les mesures d'austérité dont vient de parler Célia ont un coût politique important parce que il y a eu un revirement de Dilma au moment de sa prise de fonction pour son deuxième mandat. Et c'est cette politique d'austérité mécontente sa base électorale. Donc elle fait face à des manifestations aussi de la part de gens qui étaient traditionnellement ses appuis politiques, sans pour autant qu'elle parvienne à séduire, je dirais, les secteurs d'opposition qui lui sont assez hostiles aussi depuis le début de son deuxième mandat. Donc elle se trouve face à une mobilisation sociale qui la paralyse. Et puisqu'elle est paralysée, il y a une vraie crise de gouvernabilité qui a un coût économique. Donc on voit bien la logique circulaire, cette espèce de cercle vicieux qui l'enferme dans une situation aujourd'hui où elle ne sait plus trop bien quoi faire, elle est un petit peu paralysée, elle manque d'autorité politique, elle n'a pas de soutien parlementaire très, très ferme. Mmh. Et donc, effectivement, le Brésil est dans une mauvaise passe. Cela dit, le Brésil est plein de ressources aussi. Moi, je ne veux pas avoir l'air pessimiste. Je
expliquez-nous,
ne suis pas à propos
justement,
de ce pays.
Comment le Brésil pourrait rebondir, parce que ce qu'on voit d'ici, c'est un modèle cassé net.
Oui, mais je pense que ce qui va permettre à Dilma Rousseff de s'en sortir, c'est que, en dehors du fait que le Brésil, c'est le pays des miracles, hein, c'est pas une plaisanterie, c'est vrai, mais c'est surtout le fait que les secteurs patronaux ont strictement aucun intérêt à une aggravation de la crise politique. Hein. On réclame dans la rue au Brésil une procédure de destitution de la présidente. Je pense que personne n'a vraiment intérêt à une aggravation, et surtout pas les secteurs patronaux. Dilma Rousseff a beaucoup rencontré les secteurs patronaux ces dernières semaines. Elle s'est assurée leur soutien, et je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire faire apparaître les mobilisations actuelles comme finalement des manœuvres politiques de la part de gens qui ont perdu 4 élections de suite et qui s'impatientent en quelque sorte. Hein. Le Parti des travailleurs au Brésil est quand même assez puissant, presque hégémonique, qui vient de gagner 4 élections présidentielles. Et donc il y a des secteurs de droite qui veulent un troisième tour, qui veulent une revanche un petit peu prématurée et qui vont apparaître comme, si vous voulez, des gens qui manœuvrent et qui n'ont pas le sens de l'intérêt national. Mmh. Et par rapport à ça, je pense que Dilma Rousseff va pouvoir incarner une certaine stabilité avec l'appui des secteurs patronaux, et c'est ce qui va lui permettre de s'en sortir.
Vous partagez, Célia Himmelfarb, cet optimisme très relatif, mais quand même bien réel d'Olivier Dabenne?
Oui, je voudrais bien le partager, mais je n'arrive pas. Ah. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus nuancée, si vous voulez, parce que je crois qu'il y a un problème qui est en Argentine, au Brésil, au Venezuela, c'est le problème de la croissance et décroissance. Ou un pays qui est en expansion ou est en crise. On peut distribuer quand on est en croissance et on a les moyens de pouvoir distribuer. C'est pour ça qu'on a réduit beaucoup la pauvreté dans ces trois pays. Maintenant qu'il y a la bonne période où les vaches sont finies, si vous voulez, le pain blanc est fini, donc qu'est-ce qu'on va distribuer? Et la distribution là, elle va être beaucoup plus difficile, c'est la fin d'un modèle en quelque sorte. En Argentine, au Brésil, au Venezuela, et nous voyons que c'est les trois pays en récession. Mais là où je suis d'accord avec Olivier, c'est sur le point suivant. On a analysé en long terme le Brésil, et le Brésil rebondit toujours, effectivement. Et le Brésil, c'est un pays où les capitaux européens iront toujours. Vous voyez, sa marge est immense, 200 millions de personnes, et puis plus avec le Mercosur. Donc, les capitaux américains se retirent en général, mais les capitaux européens ont une attitude anticyclique. Ils croient toujours au Brésil, vous voyez. Mais je pense que là où j'ai des petites différences avec...
Oui, c'est que la période qui vient, là, va être très, très dure.
Elle va pas être du pain blanc, et c'est une crise véritable et profonde, en fait. Hein.
Olivier Dabenne, encore un mot, si vous voulez, et puis ensuite on passe au Venezuela.
Non, je suis d'accord avec Célia. Il y a un vrai problème de modèle économique, il y a un vrai problème pour trouver des ressorts de croissance. Donc, il y a une interrogation. Je pense qu'aujourd'hui, la tâche des hommes politiques, et c'est particulièrement le cas au PT, c'est de trouver une alternative, de trouver de nouveaux ressorts de croissance et de rompre avec ce qui a constitué une nouvelle dépendance, hein, ce que Célia appelait la reprimarisation tout à l'heure.
C'est-à-dire expliquez cette façon ce que mot.
En fait, la Chine a renvoyé le Brésil au 19e siècle, si vous voulez, à une époque où le Brésil, comme beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, dépendait strictement pour son développement de l'exportation de très peu de produits et de matières premières, d'où l'expression reprimarisation. C'est un retour à une dépendance à l'égard des exportations de matières premières, et donc qui a entraîné une désindustrialisation. On a cédé à la facilité, on appelle ça parfois aussi un modèle extractiviste, on extrait des ressources primaires pour les exporter, pour les vendre à l'étranger, et on abandonne toute ambition d'industrialisation. C'est grave, c'est un retour en arrière, je suis d'accord avec Célia de ce point de vue-là, il y a effectivement une vraie interrogation sur le modèle de croissance,
Il le paye cash, là, on le voit, dès que les cours s'effondrent, c'est l'ensemble de l'économie qui s'effondre. Regardons du côté du Venezuela. Olivier Dabenne, gardez la parole. Oui. On parle aujourd'hui d'une possible, voire d'une probable crise humanitaire, une véritable crise humanitaire au Venezuela. De quoi s'agit-il exactement ?
Si on met derrière ce terme des pénuries, des difficultés à s'approvisionner, à trouver de la nourriture. Oui, ça fait déjà plusieurs mois qu'au Venezuela, il y a une, j'irais pas jusqu'à dire une crise humanitaire au sens où elle provoquerait des milliers de morts comme on en voit ailleurs dans le monde, mais il y a de vraies difficultés au quotidien pour les gens, pour s'approvisionner, pour trouver du lait, pour trouver des produits de base. Et donc, le quotidien est compliqué. Ajouter à cela, évidemment, tout ce dont on va peut-être parler, c'est-à-dire ce côté enflammé d'un dirigeant qui cherche aujourd'hui à gagner des élections qui auront lieu en décembre en suscitant peut-être des problèmes, des incidents internationaux à ses frontières, etc. C'est vrai que le Venezuela présente un cas de figure qui est assez explosif, où on peut s'attendre à tout moment à voir des affrontements armés. Et donc moi, là pour le, si je suis relativement optimiste sur la sortie politique de la crise brésilienne, je ne le suis pas du tout en ce qui concerne le Venezuela.
Vous pensez quoi de la tension, Célia Himmelfarb, entre la Colombie et le Venezuela, le fait qu'une partie de la frontière ait été fermée entre les deux pays?
Écoutez, l'histoire entre le Venezuela et la Colombie est très difficile depuis très longtemps, des décennies en quelque sorte. Toujours, il y a eu deux types de gouvernance très très différentes, si vous voulez, à l'époque de Uribe et à l'époque même de Santos, et puis par rapport à Chavez. Chavez soutenait les FARC et ça a été un point d'achoppement énorme entre le Venezuela et la Colombie. Les choses s'étaient apaisées, je dirais, avec les négociations de paix qui tiennent lieu à La Havane, hein, et avec les FARC, mais ça n'échange pas parce qu'il y a des points de vue très différents et la Colombie pense, je pense, que le Venezuela, il doit avoir une alternance. Il doit avoir une alternance, une autre gouvernance, etc. Alors, ce problème des frontières, si vous voulez, c'est pas un problème de migration, c'est un problème politique des deux options politique entre le Venezuela et la Colombie au plus haut niveau. Mmh. Ils passent par une crise des immigrés, mais ils sont pour rien, quoi.
Voilà. Décrivez le paysage économique vénézuélien aujourd'hui, oui, que bien sûr, bien sûr. Les cours du pétrole se sont effondrés.
Vous parliez d'un PIB de moins 7%. C'est assez catastrophique. Hein.
Et d'une inflation gigantesque.
Oui. Gigantesque, aucune croyance dans la monnaie, hein, tout le monde cherche des dollars, il ne croit plus à la monnaie locale, une inflation, vous disiez, très forte et que les salaires ne sont pas indexés, donc une perte de valeur de pouvoir d'achat, et les comptes publics ont moins 15% hein, des PIB, et la dette aussi publique était très très importante. Mais surtout, ce que j'ai parlé de la crise d'un modèle de gouvernance économique et politique, c'est la fin d'une économie des rentes. Vous voyez, la chute du prix du pétrole provoque cette crise-là. Mmh. Le Venezuela ne s'est jamais industrialisé, n'a jamais diversifié. Même avant Chavez et pendant les trois mandats de Chavez, c'était trop facile de vivre dans une économie de rente. On peut penser à la Russie de la même manière. Donc, pas de diversification. Et lorsque ces prix du pétrole tombent avec une corruption et une mauvaise gouvernance, c'est sûr que les prix vont augmenter. L'inflation, c'est une expression monétaire, mais l'inflation montre qu'il y a un dysfonctionnement social et politique énorme. Hein. C'est, voilà comment je vois les choses. Allez-y.
Oui, j'avais une question pour prolonger justement le panorama que vous venez de faire. On peut s'attendre à quoi au Venezuela? Vous avez parfaitement décrit que pour le Brésil, ce serait l'austérité. Qu'est-ce qui se profile pour les Vénézuéliens?
À la différence de Dilma Rousseff, Maduro n'a pas de programme ni d'austérité, ni de non-austérité. Il gère à vue, il navigue à vue une crise politique majeure parce qu'il était très mal élu, parce qu'il y a une opposition extrêmement importante, soutenue au niveau international aussi. Et puis, il n'y a aucun respect des droits de l'homme, hein, des droits d'expression, etc. La Commission interaméricaine des droits de l'homme qui siège à Washington s'est plaint récemment du non-respect des journalistes, de la pluralité. Et puis le maire de Caracas est en prison, un grand politique est en prison, donc il ne gère pas, il ne propose pas économiquement des mesures, vous voyez ce que je veux dire. Et puis toujours une rhétorique anti-américaine, or les États-Unis est le premier fournisseur, le premier client du Venezuela. Ouais. C'est ça qui est assez impressionnant, quoi. Donc pénurie des devises et la population est très désarmée parce que quand il y a la pénurie des manifestations, et vous parliez des crises humanitaires, c'est très très grave. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une alternance bien sûr. Il faut qu'il y ait une alternance politique assez rapidement, en fait.
Merci, merci à tous les deux. Merci Olivier Dabène, professeur à Sciences Po Paris, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Vous étiez en direct des studios de France Bleu Poitou. Merci également à Célia Himmelfarb, économiste, directrice du Master Amérique latine à Sciences Po Grenoble et en direct de France Bleu Isère. À suivre, Michael Thébault pour le journal de l'International. Tout de suite, c'est Beyrouth, le groupe. 18h37 sur Inter. De Beyrouth.
30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde à 18h40. Bonsoir Michael Thébault.
Et bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, on parle ce soir de surpopulation carcérale avec cette idée pour le moins surprenante de la Norvège.
Oui, la Norvège qui connaît comme la plupart des pays européens un gros problème de place dans ses prisons et pour y remédier, elle a donc décidé, tenez-vous bien, d'exporter ses détenus, et j'ai bien dit exporter, à raison d'un vol charter par semaine. Elle va comme ça envoyer 242 détenus vers la prison de Norgerhaven aux Pays-Bas, prison que le gouvernement norvégien a même loué pour 3 ans. Grégory Tervel, bonsoir.
Bonsoir.
En direct d'Oslo. Alors d'abord, Grégory, comment la Norvège est-elle arrivée à une telle solution ?
Alors en Norvège, on n'entasse pas les prisonniers dans des cellules, on les fait patienter le temps qu'une place se libère. Aujourd'hui, la file d'attente pour entrer en prison et purger sa peine est trop longue pour le gouvernement. Ils sont plus de 1000 condamnés à patienter, d'où l'idée de résorber une partie de cette surpopulation en louant toute une prison aux Pays-Bas pour 25 millions d'euros par an. C'est une solution provisoire en attendant que la Norvège construise de nouvelles prisons. Écoutez le secrétaire d'État au ministère de la Justice, Vidar Brein Carlsen.
Notre liste d'attente fait que beaucoup de condamnés doivent patienter jusqu'à 1 an pour purger leur peine. Ce n'est pas bien, ni pour les victimes qui doivent le déplorer, ni pour la société. Nous sommes donc très contents d'avoir pu trouver en seulement 1 an 242 places supplémentaires en prison haute sécurité. Cela a pris 10 ans la dernière fois qu'on a construit une prison équivalente en Norvège, et ce temps-là, nous ne l'avons pas aujourd'hui.
Alors on peut aussi voir un aspect très politique dans cette décision. Le parti de la droite populiste peine à s'imposer dans la coalition gouvernementale de droite depuis 2 ans et il a besoin de ce genre de mesures pour satisfaire ses électeurs.
Et justement, cette mesure fait-elle ou non l'unanimité dans le pays ?
Alors absolument pas, c'est surtout le fait d'envoyer des prisonniers aux Pays-Bas contre leur gré qui fait réagir, car il n'y a pas assez de volontaires, loin de là, pour remplir la prison hollandaise. Certains juristes estiment que c'est contraire à la constitution norvégienne. Anne-Berit Sandvik travaille à l'association pour les proches des prisonniers. Elle craint surtout les effets de l'éloignement pour les détenus et leurs familles.
Cette mesure viole plusieurs des principes de l'administration pénitentiaire norvégienne, à commencer par celui de la proximité qui veut qu'un prisonnier doit purger sa peine le plus près possible de son domicile. Le fait d'envoyer des détenus aux Pays-Bas va nuire à l'efficacité de leur réhabilitation et rendre plus difficile encore le contact avec leur famille. Il en coûtera près de 600 euros à une personne pour aller visiter son proche.
Et dernier point, Grégory, sait-on quelle catégorie de prisonniers seront comme ça transférés aux Pays-Bas ?
Oui, d'abord les non-norvégiens, et puis certains ne seront pas concernés, les femmes, les prisonniers dangereux ou malades, ceux qui ont droit à une visite régulière de leurs enfants mineurs et ceux qui suivent un cursus scolaire.
Grégory Tervel, en direct d'Oslo, en Norvège. Merci.
Et direction à présent la Cisjordanie, plus précisément, Michael, cette contestée zone C, zone sous contrôle exclusif des Israéliens.
Et un territoire d'un peu plus de 3500 km² où 290 000 Palestiniens vivent sous le contrôle de l'armée et de l'administration israélienne. Et c'est là qu'a eu lieu le mois dernier, presque dans l'indifférence générale, on peut le dire, toute une série de destructions dans des villages bédouins. Au moins 65 maisons détruites, 182 personnes, dont la moitié d'enfants déplacées, chiffre de l'ONU. Explication du gouvernement israélien, ces constructions sont illégales. Faux, s'insurgent les associations qui accusent au contraire l'État hébreu d'avoir trouvé un nouveau moyen d'étendre encore un peu plus les colonies. Notre envoyé spécial Étienne Monin s'est rendu dans l'un de ces villages bédouins, à quelques kilomètres seulement de Jérusalem. Reportage.
Pour les bédouins, c'est un soir de mariage. 500 personnes sont invitées. On ne voit que les hommes installés sous un grand auvent construit artisanalement. Le marié, c'est l'un des neveux de Mohamed Saïdi qui participe à la fête malgré le choc toujours présent des engins venus détruire 4 maisons à la mi-août en bordure de Jérusalem.
Il n'y a aucun autre endroit où ils font ce genre de choses. Il est 6h du matin et ils démolissent les maisons quand les enfants sont en train de dormir. Nulle part ailleurs on fait ce genre de choses.
D'après les chiffres de l'ONU, 182 personnes ont été déplacées. Le coordinateur pour les affaires humanitaires a demandé sans succès l'arrêt de ces démolitions. Elle précarise encore plus des populations déjà fragilisées, dit Matthew Ryder, qui supervise les équipes de terrain. C'est assez dévasté. Vous voyez des gens qui ont perdu leur maison, les abris des animaux. Et après, ils s'assoient là par 45 degrés, c'était les températures au début du mois, et ils sont dévastés, ils ont tout perdu. C'est juste de la subsistance, ils doivent repartir à zéro. Ces démolitions ont eu lieu près de Jérusalem et dans la vallée du Jourdain, en territoire palestinien, dans ce qui s'appelle la zone C, la zone placée depuis les accords d'Oslo sous le contrôle israélien. Dans cette partie de territoire occupé, l'administration souhaite reloger les tribus bédouines dans des villes, comme elle l'a déjà fait en Israël ou dans les territoires palestiniens. Aïda Bouralia vit dans le Djebel Arab El Jahalin. Il y a moins de 20 ans, sa famille a été forcée d'aller s'installer dans cette cité bédouine, plantée à côté d'une grande décharge. L'histoire reste comme un traumatisme. Il estime que la reconversion n'a pas fonctionné.
On n'est pas contre le changement de vie. On veut éduquer nos enfants. On veut améliorer notre mode de vie. Et on souhaite pouvoir construire une maison neuve comme les autres. Mais si on change de vie, on doit nous-mêmes décider de quelle manière. Pas avec quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui nous dit « Vous devez faire comme ça et ça ». Si vous voulez que ça marche, il faut que ce soit vous qui décidiez.
Pour l'ONU, l'instabilité créée par les destructions joue comme une pression sur les Bédouins pour les pousser à accepter l'idée des villes avec en arrière-plan l'extension d'une colonie controversée qui couperait quasiment la Cisjordanie en deux. C'est la lecture que donne également Angela Godfrey Goldstein, activiste pour l'association Jahalin qui soutient les Bédouins.
Je suis persuadée que toutes les démolitions de ces derniers mois ont un lien avec le développement des colonies. Parce qu'il y a eu une réunion de comité à la Knesset. Ça a été raconté par le Jérusalem Post qui était présent à la réunion. Et les colons ont dit à l'administration civile, allez-y, démolissez.
Pour l'instant, l'un des deux projets de ville est au contentieux. L'autre n'a pas convaincu les tribus. Comme l'exprime Mohamed Saïdi, elles ont une longue expérience du déracinement et peu de confiance à accorder aux Israéliens.
Ils ont pris nos terres à Beersheba, alors on est venu ici. On a acheté cette terre en vendant notre bétail. Je ne quitterai pas cette terre vivante.
L'administration israélienne en charge de la zone C dans les territoires justifie les démolitions par l'absence de permis de construire. D'après des chiffres relayés par l'ONG La Paix Maintenant, en 2008, 94% des demandes palestiniennes pour pouvoir construire avaient été rejetées.
Voilà, immersion chez les Bédouins de Cisjordanie. Reportage signé Étienne Monin. Deux infos en bref, Nicolas, mais dont on va reparler ici même très prochainement. D'abord en Italie, le géant pétrolier Eni qui annonce la découverte d'un gigantesque champ de gaz naturel en Méditerranée dans les eaux territoriales égyptiennes. De quoi, a priori, permettre à l'Égypte de devenir autosuffisante pour des décennies. On vous dira absolument tout demain soir. Et puis la Côte d'Ivoire, ça va plaire à Hélène Chevalier, saluée par plusieurs grandes revues américaines high-tech, comme le champion africain de la création d'applications pour smartphones. La Silicon Valley salue la créativité d'Abidjan. Et ça, ce n'est pas si souvent. Allez, pour finir, écoutez le témoignage de cette mère de famille américaine dans le grand show télé du matin aux États-Unis, Good Morning America. Brandi Burgess, c'est son nom, raconte en direct qu'elle a frôlé la mort.
C'est arrivé si vite, mais ça m'a semblé durer une éternité. Et c'était assez douloureux à vivre. Ce fut l'expérience la plus effrayante de ma vie. Je suis chanceuse et bénie d'avoir pu m'enfuir.
Elle a traumatisé. Alors, ouais. À votre avis, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre Brandy?
Elle a eu chaud, en tout cas.
Ah, c'est vraiment ça, oui. En visitant le parc naturel de Yellowstone, elle a eu l'excellente idée de faire un selfie avec sa fille. Et un bison, un bon gros bison, bien vivant, bien sauvage. L'animal en plus a adoré le short rouge de Brandy. Il a encorné maman, si vous m'autorisez l'expression. Il l'a projeté à près d'une dizaine de mètres. Alors heureusement, elle ne s'en sort qu'avec quelques bleus. Mais c'est le 117e selfie avec bison qui tourne mal dans le parc depuis le début de l'année. Et l'an dernier, ça c'est moins drôle, 3 Américains ont été tués lors de selfies avec des grizzlies. À demain.
À demain, Michael.
Un jour dans le monde sur France Inter.
Et tous les mardis, rendez-vous sur le continent internet avec, excusez-moi, Hélène Chevalier.
C'est encore des mamans.
Oui, encore des mamans, c'était trop. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Arpentons ensemble, si on peut, les rues des villes intelligentes.
Oui, car a lieu en ce moment à Paris le S3C, le Smart Country Cities Congress, le congrès des villes et territoires connectés pour la VF, où des experts, des représentants d'entreprises de nouvelles technologies, de municipalités, de pays d'une soixantaine de nationalités sont réunis pour échanger autour de la Smart City, la ville intelligente. Le concept est très à la mode en ce moment. Beaucoup de villes se revendiquent smart, peu le sont véritablement. D'ailleurs, encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'est une Smart City. Disons qu'il s'agit de s'appuyer sur les nouvelles technologies, l'innovation pour aider une ville à atteindre certains objectifs. Objectifs qui diffèrent d'une municipalité à l'autre. Certains cherchent à diminuer la criminalité, d'autres à être plus écologiques, plus efficientes ou plus connectées. Parfois, les quatre à la fois, exemple avec la ville de New Delhi, qui est en train de déployer un très gros projet, dont un qui concerne les éclairage public.
We are just going to place and just like a street light, that would be smart lighting.
Alors ce que nous explique M. Ansari, en charge du département des technologies de l'information de la ville, c'est que New Delhi procède en ce moment au remplacement de son éclairage public qui va devenir intelligent. 18 500 lampadaires des plus grandes artères de cette mégapole vont voir leurs ampoules passer au LED, des lampadaires qui accueilleront également des hotspots Wi-Fi et des caméras de vidéosurveillance, et ce, dans le triple objectif de faire des économies d'énergie, de connecter un peu plus la ville et de renforcer la sécurité. Au total, l'Inde a d'ailleurs prévu de dépenser plus de 6 milliards d'euros dans un programme Smart City qui concerne une centaine de villes.
Et il n'y a pas que les grandes villes d'ailleurs, hein, Hélène, qui se mettent à la Smart City.
Oui, direction cette fois-ci le Portugal et plus précisément Bragance, petite ville de 35 000 habitants au nord du pays. Ici, la définition de la ville intelligente passe principalement par l'écologie. La mairie, inaugurée il y a 2 ans, est équipée de panneaux solaires, récupère les eaux de pluie pour l'eau des WC. La ville a mis à disposition des vélos électriques, privilégie les produits locaux, l'écotourisme, car pour Hernani Dias, le maire de Bragance, la ville intelligente ne rime pas forcément avec ville ultra connectée.
À mon avis, ce n'est pas une ville qui utilise seulement les nouvelles technologies. C'est une ville qui utilise et fait la conjugaison des nouvelles technologies avec d'autres choses et qui a un objectif très clair, améliorer les conditions de vie des populations. Donc, ça c'est ce qu'on est en train de faire et ça c'est ce qu'on a déjà fait il y a quelques années. Parce que Bragança, ma ville, a été classifiée en 2012 la 6e ville portugaise avec la meilleure qualité de vie. Donc, pour moi, ça c'est une ville intelligente.
Alors certes, les définitions de la Smart City diffèrent en fonction des villes, des pays, des objectifs. Et si certains pensent ou disent penser avant tout aux citoyens, il ne faudrait pas qu'ils soient oubliés dans cette course à qui aurait la ville la plus intelligente. Paul Sidbon, l'organisateur du congrès, a donc proposé ce soir aux représentants des 65 pays présents de se réunir autour d'une table afin de réfléchir sur une déclaration commune sur les droits numériques des citoyens.
L'idée, c'est de faire réfléchir ce collectif sur cette responsabilité qu'ont les collectivités vis-à-vis des citoyens et qui, en même temps, ne doit pas s'accompagner d'une réduction des libertés, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser ces technologies-là pour fliquer les citoyens, les surveiller dans leurs déplacements, enfin porter atteinte à leur vie privée. Donc il y a à la fois une obligation de rechercher des améliorations qui sont possibles, l'investissement n'est pas très lourd et aujourd'hui il y a plein de façons d'améliorer, sans pour autant l'utiliser de façon négative. Ça doit se faire dans l'intérêt du citoyen et pas contre son intérêt.
Et voilà, et Paul Sidbon espère que les représentants de ces pays vont réussir à se mettre d'accord sur 5 ou 6 résolutions.
Hélène Chevalier, merci. Je vous rappelle que le téléphone sonne ne portera pas sur la ville intelligente, mais sur la ville douce, la ville aux circulations fluides. Arnaud Le Parmentier, tout de suite.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Pour l'édito, bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Aujourd'hui, bataille de succession et de ligne politique à la tête du Parti travailliste, le Labour.
Oui, bienvenue dans le passé, Nicolas. Ce sera le 12 septembre. La gauche anglaise reviendra 70 ans en arrière, au bon vieux temps du Premier ministre Clement Attlee. On va retrouver le bon vieux Labour. Vous savez, cet old Labour inféodé au syndicat qui conduisit l'Angleterre au déclin que l'on croyait irrémédiable, mais qui fut sauvé par la révolution conservatrice de Margaret Thatcher en 1979. Donc, le 12 septembre prochain, les sympathisants travaillistes éliront vraisemblablement Jeremy Corbyn à leur tête. Jeremy Corbyn, un vieux socialiste de 66 ans, député londonien depuis plus de 30 ans, il fait la course en tête selon un sondage réalisé mi-août, 53% des intentions de vote. Très loin devant ses 3 challengers, et notamment Liz Kendall qui se revendique de l'héritage de Tony Blair et recueille 8% des voix.
C'est peu.
Seulement. Pauvre Tony Blair, inventeur de la troisième voie contre Lionel Jospin, lui qui modernisa toute la gauche européenne à la fin du XXe siècle, aujourd'hui renié par les siens. L'ancien Premier ministre est entré dans la bataille, il a mis en garde. Ceux dont le cœur penche pour Corbyn ont besoin d'une transplantation. C'est à rien y comprendre. En effet, Ed Miliband, surnommé Ed le Rouge, a perdu les élections générales de mai parce qu'il était réputé trop à gauche. Et voilà que les militants travaillistes anglais s'apprêtent à voter Corbyn, un successeur encore plus à gauche, renforcé par les militants qui se sont inscrits in extremis à cette primaire britannique pour le parti.
Mais qu'a donc fait Arnaud de si terrible Jeremy Corbyn ?
Alors Jeremy Corbyn, nous explique notre correspondant à Londres, Philippe Bernard, a de multiples talents. Il est assidu des piquets de grève, il est anti-monarchiste, partisan de la renationalisation des chemins de fer, militant du désarmement nucléaire, solidaire avec les Palestiniens contre la guerre en Irak. Il vous ressemble, Nicolas, à la petite exception qu'il est végétarien et refuse de boire de l'alcool. Il est fustigé par la droite, en fait, pour avoir qualifié l'assassinat de Ben Laden par la mère américaine de, je cite, « tragedy ». Il est perçu comme une caricature de l'intellectuel de gauche par l'appareil du Labour à qui au libéralisme économique et au retrait de l'État. Mais il a un discours clair, clair et simpliste. Alors Nicolas, si vous étiez cynique, vous pourriez dire « Tant mieux, la gauche est dans l'opposition pour longtemps ». Je ne mange pas de ce pain-là, vous non plus. Les réformes doivent toujours se faire avec un minimum de consensus et une opposition hors sol, même de gauche, n'est jamais bonne pour un pays.
Et en fait, ce que vous nous dites là, Arnaud, c'est que le cyclone Syriza est en passe d'atteindre l'Angleterre.
Oui, sauf qu'il s'agit peut-être de la fin de la tempête. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le quotidien Libération qui vous doit tant et qui a fait la tournée des gauches radicales. Alors en Grèce, le TINA, There is no alternative, s'est imposé à Alexis Tsipras au prix d'un éclatement de Syriza. Le Premier ministre est encore en tête des intentions de vote pour les élections grecques du 20 septembre, mais il aura le plus grand mal à avoir la majorité absolue. Passons en Espagne. Podemos, qui avait atteint 20% des intentions de vote au printemps, qui a ravi les mairies de Madrid, de Barcelone, est en recul et aurait 14% des voix maximum pour les élections de décembre. Le grand soir espagnol n'est plus certain non plus. Et en Allemagne, Die Linke ne décolle pas. En France, les Verts se déchirent. Mélenchon n'en profite pas. Le malheur, c'est que les partis sociaux-démocrates restent faibles en Espagne, en France et même en Allemagne, où il se fait chipper toutes ses bonnes idées par Angela Merkel. Ces partis perdent donc leur base populaire avec la crise de l'État-providence. Nicolas, je m'inquiète pour la gauche européenne, sincèrement.
Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde en aura tout entendu. Merci et à demain. Il est 18h57. Je vous rappelle que le téléphone sonne ce soir sera consacré à ces vieux camions et à ces vieux autocars boutés hors de Paris. Circulation interdite pour ces véhicules jugés trop polluants. Qu'importe si la plupart d'entre eux ne sont pas conduits par plaisir, mais pour des raisons économiques. Alors avec cette interdiction entrée en vigueur aujourd'hui dans la capitale, mais déjà adoptée ailleurs, vivons-nous un nouvel épisode d'hygiène urbain ou au contraire un louable effort écologique? Donnez-moi votre sentiment, vos impressions, posez vos questions à nos invités au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, sur Twitter avec le hashtag Telson.